Pression, dépression.
L'émission qui fait mousser les émotions.
Tous les mardis de 8h à 8h30
sur Radio Larzac.
Bonjour, c'est mardi matin, il est 8h, on va vous parler de la vengeance aujourd'hui dans Pression, dépression avec nos chroniqueurs habituels. Salut.
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 Bonjour à tous.
Vous avez entendu les 12 voix d'Amélie et Franck et puis aux commandes aujourd'hui c'est Nicolas. Salut Nico.
Salut.
Spéciale dédicace à Bruno qui est retenu par ses obligations personnelles et professionnelles. On lui fait un gros bisou.
On pense à lui.
Et il sera de retour d'ici un petit mois, on espère, avec nous. Aujourd'hui, donc vengeance avec Amélie qui va nous parler d'un bouquin.
Ouais, d'une pièce de théâtre d'Israël Horovitz, Le baiser de la veuve.
Oula, rien que le titre.
Et le regard du psy tout à l'heure en fin d'émission, Franck va nous parler effectivement de son
petit regard sur la vengeance.
Sur la vengeance. Et toujours une playlist qui va démarrer de suite avec un titre parfait pour lancer cette émission, Batlick, désir de vengeance.
Tu es la plus infecte crapule que la terre ait jamais portée. Va donc, Judas, traître, espèce de salaud.
T'es le fils de tout le monde. T'as pas un père, t'en as mille. Je t'arracherai le cœur et les yeux. Je te sortirai les tripes. Je te prendrai avec. Je te tuerai.
Qu'il fallait donc que je t'en veuille pour que juste avant le cercueil je déride une dernière fois celle qui avait fait de toi la pire espèce d'enfoiré. Qu'une mère ait jamais porté. Il m'a fallu bien du courage pour lui retirer son corsage, pour qu'elle croie que ce n'était qu'un jeu. Si jamais je n'ouvrais les yeux, mais rentrais par où t'étais sorti, m'a vengé de toi en partie. Ça a apaisé ma colère avant qu'elle n'aille au cimetière, quand j'ai fait l'amour à ta mère. Fallait te détester tellement pour que juste avant ses 16 ans je n'offre sa première fois à celle qui ne voit en toi que la pire espèce d'enfoiré qu'une fille ait jamais supportée. La petite a du caractère, c'est tout l'inverse de son père. Ce n'est pas un con, c'est un gouffre. Et c'est qu'il m'en a fallu du souffle. Mais rentrer dans ton fruit défendu m'a vengé de toi un peu plus. Elle était fraîche, elle était docile, ma petite leçon avec un CCD. Quand j'ai fait l'amour à ta fille, je pensais en avoir fini de ma croisade vers l'infini. Quand elle s'est jetée dans mes bras, insultant et crachant sur toi, la pire espèce d'enfoiré qu'une femme ait jamais épousée. J'avoue, je manquais de courage devant ce morceau de naufrage, en pensant à tous ceux qui, comme toi, étaient déjà passés par là. Mais malgré mon désir de vengeance, j'ai prétexté l'abstinence. Ce qui te tue, ce qui te condamne, ma satisfaction, le juste retour de flamme, c'est que tu dois te taper ta femme.
L'écho d'Amélie, un film, un livre, résonne sur nous.
Dans l'expression « la vengeance est un plat qui se mange froid », il y a cette idée que la vengeance n'est pas commise sous le coup d'une impulsion, mais il y a cette idée que se venger, ça se prépare, ça se travaille minutieusement. La personne qui se venge devient inquiétante et dangereuse. Si nous ne sommes pas censés nous faire justice nous-mêmes, il semble qu'il y ait quelque chose de courageux, du moins de romanesque dans l'acte de vengeance. Et c'est d'ailleurs le ressort de beaucoup d'histoires sombres, de séries, de pièces de théâtre, de romans ou de films. Alors ce qui est passionnant à raconter et analyser, c'est ce basculement de la personne vengeresse, qui du statut de victime passe au statut de bourreau. Et c'est la force que la personne va puiser en elle pour arriver à ses fins de vengeance. Ce qu'on peut se demander aussi, c'est ce qui fait qu'on bascule et quelle est la psychologie de celui qui bascule, ou quelle horreur peut subir une personne lambda pour devenir un être haineux. Alors dans certains cas, il ne s'agit pas forcément d'horreur à la base, mais c'est l'acte de vengeance qui dépasse le crime de base. Je pense à ce fait divers atroce. Il y a quelques mois, un homme qui a tué son beau-frère, la femme de celui-ci et leurs enfants, soit 4 membres d'une même famille, car le père de cette famille avait gardé un héritage pour lui seul. Alors là, le crime du vol d'héritage, on est d'accord, c'est pas cool, mais de là à tuer 4 personnes puis les découper en morceaux, je me pose quelques questions. Alors dans quelle mesure le tueur a pu se dire que ça en valait la peine et a pu trouver la force nécessaire pour tuer tout ce monde-là? On est sur une forme de vengeance, peut-être? Y avait-il préméditation? Était-ce un coup de folie? Sans doute un mélange des deux. Et cet homme, vraisemblablement confronté à ce qui est pour lui une pure injustice, est devenu fou et obsessionnel. Alors voilà, on est sur de l'obsession. La vengeance, est-ce que ce serait souvent une obsession? Ça peut aussi être un exutoire, on se venge sur certains de ce que d'autres nous ont fait subir. Je pense à la série Dexter. L'homme qui canalise sa soif de vengeance et son traumatisme terrible de son enfance en devenant un tueur en série, de tueurs ou criminels dangereux. Alors tout ce long préambule pour m'amener à vous parler du Baiser de la veuve, qui est une pièce de théâtre écrite par Israël Horowitz. Dans Le baiser de la veuve, on est dans une bourgade pas très heureuse des États-Unis, où vraisemblablement l'ambiance est plus propice aux beuveries de fin de soirée rodéo qu'aux cocktails dans des lofts new-yorkais. La pièce s'ouvre sur Bobby et George, qui travaillent dans un entrepôt qui emballe du papier journal. Leur langage à tous deux est cru, leurs attitudes brutales. Bobby est un peu moins idiot que George, mais globalement ça ne vole pas très haut niveau conversation et psychologie. Pour eux, et surtout pour George, les femmes sont des bouts de chair à baiser, et puis voilà. Mais ce soir-là, Bobby a rendez-vous. Il a rendez-vous avec Betty, une copine de lycée. Et pour le coup, Betty, elle est partie bien loin de cette ville pourrie, et elle a fait des études, et elle a eu des enfants. Son mari est mort quelques années auparavant, on ne sait pas comment. Elle revient dans sa ville d'enfance, où son frère est mourant, et on ne sait pas pourquoi il est mourant. Quand George apprend que Bobby a rendez-vous avec Betty, la relation entre les deux hommes se tend et George explose en provocation. Quand Betty arrive, on ne sait pas trop pourquoi elle est là, elle retrouve Bobby et on comprend au fur et à mesure et le personnage de Betty s'étoffe. Mais comme je vous parle de la pièce écrite, la vision du personnage de Betty est assez ouverte. Et c'est ça qui m'a plu dans la lecture. C'est que l'histoire est précise dans les faits, les dialogues sont marqués, mais les personnages sont construits de manière à les interpréter selon des axes vraiment différents en fonction des comédiens, je pense. Et surtout Betty, je ne l'ai jamais vue cette pièce, mais je l'ai lue et j'ai travaillé dessus aussi. Et plus je m'imprégnais de cette histoire, et notamment du personnage de Betty, plus je la trouvais complexe. Parce que si Betty revient, c'est bien pour se venger de quelque chose. Mais on ne sait pas clairement. On ne sait pas si elle a prémédité quoi que ce soit. Tout comme on apprend des choses sur d'autres personnages qu'on ne voit pas. Et on se rend compte que plein de pistes sont possibles. Alors comme c'est une pièce de théâtre, le fait qu'Israël Horovitz laisse cette liberté donne vraiment envie de voir la pièce ou de la jouer. Pour terminer, je parlerai du titre. En français, c'est Le baiser de la veuve. Mais en anglais, c'est The Widow's Blind Date. Littéralement, le rendez-vous à l'aveugle de la veuve. Et le titre en anglais est quand même vraiment mieux. Parce que bon, déjà c'est celui de l'auteur, et dans un blind date, il y a cette idée qu'on ne sait pas trop sur qui on va tomber, et il y a cette idée de rendez-vous arrangé. Ce qui est étonnant, pour en revenir à ce que je disais sur ce retournement de statut chez la personne vengeresse, et c'est ce qui est aussi mis en valeur dans cette pièce. Bien des fois, on s'embêtit en danger dans cet entrepôt. Et pour trouver la force et le cran d'y aller et de s'exposer, le courage est une forme d'inconscience. Ça la dépasse complètement. Et c'est bel et bien ce qui la pousse à régler ce qu'elle a à régler.
8h15, vous êtes sur Radio Larzac dans cette émission Pression Dépression spéciale Vengeance et on vient d'étendre Portishead, Revenge of the Number. Et le psy, qu'est-ce qu'il en dit ?
Ah, sur la vengeance. Alors c'est déjà le propre de l'homme et celui des animaux aussi, hein, la vengeance. Et c'est un mécanisme qui a été très étudié chez les primates en particulier. Et d'ailleurs, les primatologues parlent de ce qu'on appelle l'altruisme réciproque. C'est-à-dire qu'en réponse à une faute, une agression, eh bien je réponds par une faute, une agression. La vengeance est donc une réponse. Une réponse à une attaque ressentie par un individu. La faute n'a pas besoin d'être avérée. Il suffit juste de se sentir frustré, de se sentir humilié, trompé, trahi, volé, pour avoir envie de répondre de la même manière. Alors dans les prises en charge que je peux réaliser, ben je constate souvent cet esprit de vengeance dans les couples et les séparations. Le mari trompe sa femme, et cette dernière, de colère, va voir sa maîtresse et va tenter de briser cette nouvelle histoire. Un couple se sépare et pour faire payer l'autre de la rupture, on va influencer les enfants, on va faire du chantage un peu affectif. Ou avant de divorcer, on va contracter des dettes dont l'autre est solidaire.
Ce ne sont pas des conseils. Hein.
Non.
C'est un retour sur expérience.
Ouais. Alors on peut parfois trouver... Même parfois trouver des fausses accusations, hein, des accusations d'agression sexuelle, de mauvais traitements ou d'abus sur les enfants, de prise de drogue. L'objectif, faire mal au futur ex, se venger. Et la nature humaine fonctionne sur le principe souvent de la loi du talion. Vous connaissez, œil pour œil, dent pour dent. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et on va employer le terme rancune, mais finalement, souvent, il s'agit bien d'une vengeance. Alors pourquoi ces mécanismes dans les séparations ? C'est une manière aussi d'annuler le sentiment d'injustice et de reprendre le contrôle d'une situation qu'on subit. La vengeance a donc une fonction bénéfique, elle est réparatrice. Si vous ne vous sentez pas offusqué après une humiliation et que vous n'avez pas envie de vous venger, c'est pas tout à fait normal. Le désir de vengeance est un bon indicateur sur ce qu'on appelle l'estime de soi et du respect que l'on a de soi-même. C'est ce qu'on appelle avoir de l'amour-propre. Mais attention, la vengeance a un sens. Si la réponse, on va dire de la vengeance, est égale à l'agression ressentie. Si l'émotion submerge la personne et qu'elle va s'enfermer dans un désir absolu de se faire justice par soi-même, alors là, la vengeance devient pathologique. Si, à un adultère par exemple, on répond par une tentative de meurtre, même symbolique, de son ex, ça devient un peu pathologique. Un peu
Pas mal.
Ouais. Alors c'est pour ça qu'on a aussi inventé les tribunaux, hein, justement pour équilibrer ça. Mais c'est peut-être le sujet d'une autre émission, la justice. Bref. Évitons quand même la loi du talion, hein, car en général, ça finit toujours mal. Et parfois même, on en oublie l'origine du différend. Ce ressenti de vengeance, sans fin, a toujours des conséquences un peu néfastes. Déjà par une image négative de soi-même, être dans la vengeance, forcément ça isole. Car en général, les hommes n'aiment pas les méchants. On n'aime pas les méchants. Et donc, ce sont souvent des individus qui finissent par se sentir seuls, être rejetés, parce qu'on rejette souvent le vengeur. Et donc, ça va augmenter aussi son sentiment d'injustice. Forcément. Et puis, progressivement, le vengeur va s'installer dans une vie de stress, d'anxiété, et très souvent va sombrer dans une dépression. Car toute l'énergie disponible de l'individu est mobilisée dans l'esprit de vengeance. Donc la vengeance n'a de sens qu'à la condition qu'elle soit évidemment proportionnelle à la faute. Et qu'elle se limite aussi à la fois dans l'espace, le degré, mais aussi dans la forme. Bref, tout ça pour terminer, pour dire que le plus important dans la vengeance, c'est le contrôle. Voilà pour le côté psy.
Ok, bah merci beaucoup Franck. Mm-hmm. On continue en chanson ?
Allez.
Allez, une chanson qui parle de jalousie, de vengeance.
Je t'ai... tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les cravenards. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé ton rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout relu Françoise Dolto. J'ai même lacéré le cocteau que tu cachais sous ton bureau. Fallait pas me parler comme ça. Tu vois bien ton cinéma. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout démonté le bahut. J'ai tout bien étalé la glu. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu. J'ai tout brûlé le beau tapis. Je me suis saigné au pied du lit. J'ai décousu tes beaux habits et mis le feu à la penderie. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Fallait pas me casser le cœur, me laisser sans ton revolver. Je fais rien que des bêtises quand mes yeux pleurent. Bêtises quand t'es pas là. Je fais rien que des bêtises quand mes yeux pleurent. Fallait pas me parler comme ça. Il est beau ton cinéma. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là.
Vous avez reconnu la voix de Julien Doré, c'était l'époque des radios crochets. Hein, c'est fini de cette époque-là. Et à l'époque, Julien Doré reprenait Sabine Paturel, une chanson des années 80, revisitée donc. Mmh. Et pour terminer notre émission, toujours en chanson, cette fois avec une voix féminine, Clarica, Je t'aimais mieux. Écoutez bien les paroles, ça parle pas mal de vengeance, mais on s'en aperçoit pas tout de suite.
Faisait des vers, j'adore du pur style. sapin, étrange nous ravissait. La bière c'était ton écrin, ton archange de chevet. Je t'aimais mieux quand t'étais mort, c'était chouette. J'étais ton unique trésor, ta conquête. Tu ne détournais plus les yeux au moindre minois qui passe. Ton silence ultime aveu d'un amour qui ne trépasse. Il m'en souvient, nos têtes à tête à la lueur des grandes bougies. Touchez pas ton assiette, l'amour te coupait l'appétit. Je t'aimais mieux quand t'étais mort, c'était batte. Je te voulais pour moi, alors à mort. Je t'avais mis en boîte, je t'avais mis en boîte. Je t'avais mis en boîte. Je t'aimais mieux quand t'étais mort. C'était bien, c'était bon, c'était chouette, c'était batte, c'était tranquille.
Et voilà, notre petite demi-heure consacrée à la vengeance se termine ce matin sur les ondes de Radio Larzac. Amélie nous a parlé du Baiser de la Veuve d'Israël Horovitch, la pièce qu'on vous conseille peut-être de trouver aux éditions théâtrales.
Voilà, aux éditions théâtrales. Et juste pour l'anecdote, Israël Horovitch, c'est le père d'Adam Horovitch des Beastie Boys. Voilà, j'ai découvert ça, alors
merci pour l'info.
Je vous en fais pas.
Franck nous a donné effectivement son retour d'expérience sur la vengeance.
Eh oui. Qu'on peut retrouver dans les couples, parfois.
Voilà, pas forcément tout le temps négative.
Non.
Mais
des petites vengeances.
Faire attention.
Voilà.
Et puis, Nico, merci beaucoup pour la réalisation de cette émission.
De rien.
Et bien, vous retrouvez bien sûr toutes les informations sur notre émission, sur notre Facebook, Pression, Dépression. Vous êtes beaucoup à nous commenter, à nous relayer, à nous partager. Donc, continuez. Puis, on attend vos retours et vos questions, vos remarques aussi, parfois intransigeantes, mais qui nous font du bien. Voilà, on vous souhaite à tous une excellente journée. On vous dit à la semaine prochaine, 8h, même endroit, même punition.
Bonne journée.